Bonsoir Fabienne Synthèse.
Bonsoir Charline et les amis. À demain, pour nous c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète Tessa Bonlieu. Le 18-20, comme il se doit, commence avec ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mardi 23 novembre avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence avec des questions.
Des questions au gouvernement sur la situation aux Antilles. Les violences des dernières nuits en Guadeloupe et aussi en Martinique étaient cet après-midi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale avec une opposition qui dénonce la politique sécuritaire de l'exécutif. Nous serons au Palais Bourbon en début de journal. Le Covid, première cause de mortalité en Europe, le Covid qui pourrait faire 700 000 morts de plus d'ici le printemps sur le continent. Dernière prévision alarmante de l'OMS, explication à suivre. À suivre également la campagne de vaccination des 5-11 ans qui débute aujourd'hui en Israël. Gérald Darmanin qui entend régulariser les femmes sans papier victimes de violences conjugales. C'est une information France Inter. Et puis les mésaventures du plus grand télescope spatial de l'histoire. Le décollage du James Webb encore reporté à cause d'une bague de serrage qui a lâché.
18h15, un jour dans le monde en Éthiopie, ce soir qui décidément s'enfonce avec l'ONU qui rapatrie les familles de ses employés. La France fait la même chose, Addis Abeba, que l'on dit menacée. Ce conflit dure depuis plus d'un an, un conflit au relent ethnique qui utilise la faim, le viol comme arme de guerre et peut dégénérer bien au-delà de ses frontières. À 19h20, c'est le téléphone sonne en ces temps de pandémie et de fièvre. Dans les rues, y a-t-il vraiment une défiance généralisée des populations que nous sommes vis-à-vis de la science? On est tenté de dire oui comme ça, il suffit d'écouter quelques conversations et même d'aller 5 minutes même pas sur les réseaux sociaux. La réalité est inverse. 84% des Français croient en la science, ce qui n'empêche pas de réfléchir sur la manière dont la parole scientifique est transmise, par qui, avec quelle pédagogie, qu'est-ce qui manque? À vous de nous le dire au 01 45 24 7000.
France Inter.
L'opposition à l'Assemblée nationale s'empare de la crise en Guadeloupe et en Martinique.
Après plusieurs jours de violence contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants, la situation est toujours difficile en Guadeloupe. La dernière nuit toutefois a été plus calme. Moins de pillages notamment, mais encore des tirs contre les forces de l'ordre. Inquiétude aussi en Martinique aujourd'hui, où des forces de l'ordre et des pompiers ont également été la cible de tirs d'armes à feu dans un quartier de Fort-de-France. Une première, des impacts de balles de 9 mm relevés sur plusieurs véhicules, mais pas de blessés. De nouveaux débordements donc qui ont fait flamber les débats aujourd'hui entre les députés et le gouvernement. Ambiance au Palais Bourbon avec Antoine Gignot.
C'est le déploiement des forces de l'ordre que pointent les députés de la France Insoumise. 2200 gendarmes envoyés en Guadeloupe, une provocation inutile, lance Jean-Luc Mélenchon, appuyé dans l'hémicycle par Mathilde Panot.
Vous instaurez un couvre-feu arbitraire et envoyez le RAID et le GIGN comme s'il s'agissait d'ennemis de la République. La matraque n'a jamais été une réponse à la colère sociale.
Dans les tribunes, le ton monte et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, répond au nom du gouvernement.
Aujourd'hui, ceux qui prennent des balles réelles, ce sont les forces de l'ordre et c'est ça qui devrait vous scandaliser. Vous encouragez le désordre, comme d'habitude, ce que vous voulez, c'est souffler sur les braises.
Il faut condamner les violences, d'où qu'elles viennent, ajoute Sébastien Lecornu. Le ministre de l'Outre-mer rappelle que le dialogue continue, explique que les pompiers et les soignants guadeloupéens qui refusent les vaccins à ARN messager vont avoir la possibilité de choisir d'autres types d'injections. Pas de précision, en revanche, sur l'agenda du ministre et sa présence en Guadeloupe. Il y aura un déplacement, mais aucune date n'est arrêtée pour l'instant, confirme plusieurs députés La République En Marche.
Antoine Gignot à l'Assemblée nationale. Au chapitre sanitaire, nouveau record de contamination en France. 30 000 nouveaux cas de Covid ces dernières 24 heures, du jamais vu depuis l'été dernier. Résultat, le nombre de classes fermées augmente dans les établissements scolaires. On est passé de 4 000 en fin de semaine dernière à 6 000, c'est-à-dire 2% des classes en France. La situation sanitaire qui se dégrade dans tous les pays européens. Selon les derniers chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la dernière vague de contamination au Covid sur le continent pourrait provoquer la mort de 700 000 personnes d'ici le printemps. Un scénario catastrophe plausible mais pas inéluctable, à condition de réinstaurer le strict respect des gestes barrières. Les explications à Genève de Jérémy Lanche.
Trois raisons expliquent la flambée des contaminations en Europe. D'une part, l'omniprésence du variant Delta, plus transmissible. Il représente aujourd'hui plus de 99% des cas recensés. D'autre part, le relâchement dans l'application des gestes barrières, parfois à l'initiative des gouvernements qui ont pour certains abandonné l'obligation du port du masque, alors qu'avec le froid, les gens sont beaucoup plus en intérieur. Dernière raison, la couverture vaccinale encore trop faible. Si certains pays d'Europe de l'Ouest ont vacciné près de 80% de leur population, d'autres plus à l'Est n'en sont qu'à 10%. Le retour d'une nouvelle vague doit donc coïncider avec le retour des gestes barrières, dit l'OMS, qui rappelle que la généralisation du port du masque permettrait de sauver 160 000 vies. L'OMS Europe, qui préconise également l'injection d'une troisième dose pour les personnes vulnérables, même si le patron de l'agence préférerait, lui, un moratoire tant que le reste du monde n'a pas encore un accès équitable au vaccin. Genève, Germilange, France Inter.
L'OMS, on l'entendait, qui plaide pour une application stricte des gestes barrières et pour une vaccination massive, une vaccination qui vient de s'élargir justement aux plus jeunes en Israël. Après les États-Unis, l'État hébreu a en effet entamé aujourd'hui la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans, car si le pays a été l'un des pionniers en décembre 2020 pour lancer la vaccination de la population, et si les adultes en Israël sont vaccinés à 80%, eh bien au cours des derniers jours, le nombre de cas quotidiens a de nouveau beaucoup augmenté et la moitié des infections concernent maintenant des enfants âgés de 11 ans et moins. C'est le reportage d'Alice Froussard dans un centre de vaccination de Jérusalem.
Il y a ceux qui ont pris des rendez-vous pour leurs enfants dès que l'âge a été abaissé, ceux qui ont réservé cette vaccination la veille, ceux qui tentent leur chance dans la file d'attente devant le centre de vaccination. Lynn, mère israélienne de 3 enfants, précise que chez elle, tout le monde sera vacciné.
Je suis venue ici pour faire vacciner mes 2 plus jeunes enfants. J'avais déjà fait vacciner l'aîné et je pense que c'est très important. Moi, je crois en la vaccination. J'avais des doutes avant sur le vaccin pour les enfants, mais je suis médecin et j'ai participé à une soirée d'information pour les professionnels de santé. J'ai pu voir les différentes recherches et mes inquiétudes sont parties. Je pense qu'on doit juste penser à la population générale.
Car après les essais cliniques de Pfizer, après une vaste campagne aux États-Unis et les recommandations d'un panel de scientifiques israéliens, le vaccin a montré son efficacité à 90,7% contre les formes symptomatiques de la maladie sur les enfants. Cathy et son mari attendaient cette annonce avec impatience.
On a été en quarantaine de nombreux fois. Les enfants vont à l'école et surtout, on sait qu'on doit se faire vacciner pour continuer à vivre.
C'est ce que les médecins espèrent, que ce vaccin pour les enfants de 5 à 11 ans fasse aussi baisser la propagation du virus dans la population générale. Jérusalem, Alice Froussard, France Inter.
Dans l'actualité étrangère encore, cet appel du Quai d'Orsay qui demande aux Français vivant en Éthiopie de quitter le pays face au combat qui se rapproche de la capitale Addis Abeba. Il y a sur place environ 1000 ressortissants français. Au Yémen, ce chiffre terrifiant de l'ONU qui évalue à 377 000 le nombre de morts dans le conflit entre les rebelles Houthis et le gouvernement. Conflit qui dure depuis 7 ans maintenant. Près de 60% des décès sont dus aux conséquences indirectes de la guerre. Manque d'eau potable, famine et maladie. Et puis les États-Unis de leur côté prennent une décision rare mais temporaire pour faire baisser le prix de l'essence à la pompe. À la veille des fêtes de Thanksgiving, Joe Biden, le président américain, a décidé de puiser dans les réserves stratégiques d'or noir du pays, utilisées normalement en cas de catastrophe naturelle ou de crise internationale. 50 millions de barils de brut américain vont être déversés sur le marché.
On en vient, Sébastien, à cette information France Inter, une meilleure protection des femmes sans papiers et victimes de violences conjugales.
C'est une décision du ministre de l'Intérieur. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, demande la régularisation des femmes sans papiers et victimes de violences conjugales.
Oui, le ministre dit partir du constat que ces femmes hésitent à aller porter plainte de peur d'être repérées et expulsées. Gérald Darmanin va donc envoyer des instructions au préfet pour protéger les victimes de ces conjoints violents.
Si la justice vient à démontrer en effet que cette personne est responsable d'un viol, est responsable de violences conjugales, nous nous engageons à régulariser ces femmes au nom de la protection que nous leur devons. Évidemment, la République protégeant évidemment les personnes les plus faibles dans ces conditions, c'est-à-dire soumises manifestement à des violences extrêmement graves.
Ces femmes se verront délivrer un titre de séjour spécifique le temps de l'enquête, puis une fois la condamnation définitive, un document valable plusieurs années. Une annonce saluée par les associations telles que la CIMADE, qui dit accueillir chaque année plusieurs centaines de victimes sans papier. Violaine Husson y est responsable des questions de genre et protection.
Cette annonce nous réjouit. Reste à voir comment est-ce qu'elle va être mise en œuvre sur le terrain. C'est une annonce qui va sans doute passer par le biais d'une circulaire, du coup qui va laisser toute marge d'appréciation par les administrations et notamment les préfectures, qui qui vont, au vu d'un faisceau d'indices, décider ou pas si la personne étrangère est victime de violence.
Alors cette décision sera entre autres fondée sur des constatations médicales. Il s'agit bien d'une circulaire. Le ministre doit envoyer le détail des instructions au préfet demain ou jeudi.
Ariane Grissel, merci. C'est rarissime au sein du corps de la magistrature. Plus de 3000 magistrats, un tiers de la corporation, signent ce soir une lettre ouverte publiée à l'instant sur le site du journal Le Monde. Une lettre dans laquelle ils sonnent l'alarme, disent-ils. Ils y dénoncent la grande souffrance des juges et la violence du fonctionnement de leur institution. On y revient dans le journal de 19h. On les appelle des accords de performance collective. Un nom un peu technique pour définir cette possibilité pour les entreprises de recourir à des mesures exceptionnelles en cas de risque de faillite, possibilité notamment de baisser les salaires, de rallonger le temps de travail, des accords négociés avec les syndicats qui ont beaucoup augmenté pendant la crise sanitaire. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Une augmentation de 86% de ces accords par rapport à la période précédant la crise sanitaire.
Oui, il y en a eu près de 430 en 2020 à partir du printemps et ce sont des efforts sur les rémunérations qui ont été beaucoup plus demandés pendant la crise par rapport à la période précédente, d'où peut-être en gain aujourd'hui des revendications salariales dans les entreprises sur fond d'inflation et de reprise économique. Pendant la crise, la proportion d'accords de performance collective basés sur des concessions salariales a bondi de 38 à 62%, alors que les autres types de concessions, type allongement du temps de travail ou mobilité géographique, ont eu tendance à stagner, voire à baisser légèrement. Autre enseignement de ces accords de crise, l'idée que tout le monde soit dans le même bateau. Les accords négociés et signés ont stipulé deux fois plus souvent qu'avant la crise, qu'il y avait aussi des contreparties à demander côté employeur. Par exemple, l'association aux efforts des cadres dirigeants, des mandataires sociaux et même des actionnaires. Des accords qui ont le plus souvent été signés dans trois quarts des cas dans des entreprises ayant déjà eu au préalable des expériences significatives de négociations sociales et qui concernent donc davantage les grandes sociétés que les plus petites.
Mais Fabien Cazot, chef du service économie de France Inter. Merci. Au chapitre économique encore, la Maïf qui rachète la Camif. Les profs seront de quoi on parle. L'assureur traditionnel des enseignants rachète la Camif, entreprise française de commerce en ligne spécialisée dans l'ameublement de la maison et conçue pour les instituteurs juste après la guerre.
C'est un nouveau couac dans le lancement du télescope spatial James Webb.
Oui, c'est ce télescope de la NASA censé remplacer Hubble avec son gigantesque miroir capable de lire, on l'espère, jusqu'au premier temps de l'univers. Sauf que son décollage pour l'espace a encore pris du retard. Il devait être lancé par une fusée Ariane 5 le 18 décembre prochain. Dans moins d'un mois, mais ce matin, Sophie Bécherel, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, patatras, nouveau contretemps depuis le pas de tir de Kourou.
C'est une bague de serrage qui a lâché alors que les équipes d'Arianespace étaient en train de positionner le télescope sur sa base pour ensuite le mettre sous la coiffe de la fusée. Le télescope a été secoué par une onde de choc. Quelles conséquences suite à ces vibrations? C'est ce que la NASA veut vérifier. Sur place à Kourou, une équipe a aussitôt été constituée pour vérifier qu'aucun composant n'a été endommagé. Quatre jours de vérification à minima, mais l'agence spatiale américaine parle désormais d'un lancement au plus tôt le 22 décembre. Si tant de précautions sont prises, c'est que le James Webb est un projet inédit à 10 milliards de dollars. Unique par la dimension de son miroir principal, il lui permettra de capter le rayonnement infrarouge très faible et donc de remonter aux premières galaxies de l'univers et aussi de voir ce qu'il y a dans l'atmosphère des exoplanètes. D'un diamètre de 6,50 m, ce miroir est trop grand pour entrer sous la coiffe d'une fusée. Il a donc été décomposé en 18 hexagones repliés et qui devront se déployer automatiquement une fois dans l'espace. Imaginé en 2002, le James Webb aurait dû être lancé en 2019. Sa complexité, les nombreuses vérifications de la NASA ont conduit à de multiples reports ces dernières années. Personne dans cette histoire ne veut se louper. Il ne sera pas possible de réparer le James Webb, contrairement à Hubble, car une fois en orbite, il sera à 1,5 million de kilomètres de la Terre.
Ça fait loin. Sophie Bécherel, spécialiste scientifique Inter. Un mot de sport pour terminer avec cette sanction rapide contre l'auteur du jet de bouteille en plastique sur le joueur marseillais Dimitri Payet, dimanche soir au début du match au MOL, 6 mois de prison avec sursis. Une peine assortie d'une mise à l'épreuve et d'une interdiction d'accès au stade de l'Olympique Lyonnais pendant 5 ans. Et puis eux finissent premiers de la Transat Jacques Vabre dans la catégorie ultime, ces géants des mers les plus rapides du monde. Franck Camas, Charles Caudrelier sur le maxi Edmond de Rothschild sont arrivés à Fort-de-France dans l'après-midi après tout de même 16 jours de course.
Merci beaucoup Sébastien Nogeny pour le journal. Dans un instant commence votre vrai travail sous les radars. Dans un jour dans le monde, vous nous parlerait notamment du Groenland qui demande réparation. Ce soir, nous allons en Éthiopie. Ça sent vraiment la panique dans la communauté internationale, tant les combats se rapprochent de la capitale. Et puis, notez-le déjà, et en avant pour vos questions, au téléphone sonne en deuxième heure. Ce soir, on s'arrête sur ce chiffre issu d'une grande étude de l'Université de Lorraine et de la London School of Economics. 84% des Français croient en la science. Ça paraît presque contradictoire quand on entend le bruit de la rue, même parfois quand on écoute le téléphone sonne. Eh bien, les Français et la science, épreuve de confiance et de défiance, grandeur nature avec le Covid, qui interroge sur la manière de communiquer chez les scientifiques, sur la pédagogie à apporter. On voit ça ensemble au 01 45 24 7000. Un mot de météo quand même.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, bonsoir. Vigilance orange, pluie, inondation pour l'Aude.
Oui, bonsoir à tous. Entre ce soir et demain soir, on a des pluies orageuses qui remontent de Méditerranée vers le Languedoc-Roussillon. Elles peuvent être soutenues, en particulier sur l'est de l'Aude, placées en vigilance orange. On pourrait avoir 80 à 120 mm de pluie, parfois jusqu'à 150 des Corbières au Narbonnais. Ça représente 1 à 2 mois de pluie. Sur l'est des Pyrénées, des chutes de neige conséquentes se produiront à partir de 1500-1800 mètres. Quelques pluies déborderont vers le sud-ouest et le massif central. Et puis en allant vers le nord, le soleil devra se débarrasser de la grisaille plutôt tenace au nord de la Seine.
Et puis toujours bien bien frais.
Des gelées fréquentes sur une grande partie nord en effet, moins 5 à 2 degrés attendus le plus souvent. Et puis l'après-midi, pas plus de 4 à 8 degrés sur un grand quart nord-est, Île-de-France comprise, 9 à 12 sur l'ouest et jusqu'à 19 en Corse.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. Élodie, à tout à l'heure après 19h.